Merci pour eux, merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'appeler Frédéric Lenoir qui va nous rejoindre. Voilà. Alors l'écran va se lever, les rideaux vont se lever, on va s'installer. Le micro de Frédéric. Vous devez être touché, j'imagine, d'entendre cet enthousiasme. Ça a eu du sens, votre film.
Oui, on dirait que ça vous a plu, ouais. C'est sympa d'être resté, en tout cas.
Ça, on est pas...
ça marche, le micro, là.
On n'est pas habitué aux shows à l'américaine comme ça, là. Quand on arrive, d'habitude, c'est voilà, des plus petites salles. C'est la première fois, je pense, qu'on est dans une salle aussi grande.
Vous entendez, tout le monde entend ? Voilà, il me semblait que les micros, les micro-cravates, s'ils peuvent être branchés, on fait un petit test.
Voilà. C'est bon ? Si, ça marche. Voilà. Non, je disais, on n'est pas habitué aux ambiances à l'américaine comme ça. D'habitude, on est une petite salle et voilà, et on arrive à la fin. Et... Donc voilà, merci Marc pour cet accueil, ça fait
c'est
bizarre.
C'est la première fois qu'il y a une si grande salle,
ouais,
je crois.
C'est la première fois, voilà, d'habitude, on avait faire 500 places, c'était le maximum. Là, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais voilà, c'est impressionnant.
Alors, en attendant que le rideau s'ouvre, je vais poser une question à Frédéric Lenoir en tout premier, parce que, on va s'installer, venez.
Waouh.
Pas mal, hein?
Eh ouais.
Waouh.
La levée du voile.
On s'ouvre, quelque chose bien, hein?
Attends, c'est moi là, je crois. C'est
toi,
là.
Ouais, je devrais être là-bas.
C'est ouais.
On va échanger les...
On échange.
Oh, de toute façon, je pense pas que vous voyez grand-chose. Okay.
Tac, 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 si tu veux.
Allez, c'est parti.
C'est qui ça,
c'est
pour les questions.
Ah, alors, c'est un métier, hein.
Vous savez, ça va être un grand moment juste maintenant, parce que il y a, en fait, Nathanaël me rappelait qu'il y a 5 ans exactement, enfin exactement plus un jour.
Bah, c'est-à-dire qu'avec Frédéric, on s'est rencontrés le 7 septembre 2010, donc il y a... quasiment 5 ans, je m'en rappelle parce que c'était mon anniversaire.
Et c'est pour ça que j'avais programmé ça à cette date-là.
Exactement. Donc demain, c'est son anniversaire.
C'était son cadeau.
Et donc en fait, c'est un peu une fin de cycle. Enfin, il y a des cycles dans des cycles, hein, de toute façon. Mais là, pour nous, c'est un peu symbolique d'être là voilà, avec vous parce que finalement, on le découvre ensemble, on redécouvre ensemble le film et à la fin d'un cycle de 5 ans.
Et puis surtout, en fait, vous ne vous êtes pas vu depuis et c'est la première fois que Frédéric Lenoir voit le film. Donc, non seulement j'imagine que vous vous posez la question, mais qu'est-ce qu'il en a pensé, comment il se sent avec ce film, mais eux, je peux vous dire qu'ils se réjouissent beaucoup. Donc, Frédéric Lenoir, comment ce film vous a touché, comment vous l'apercevez, ce film ?
Moi, j'ai un très bon souvenir déjà de la rencontre que nous avions fait ensemble, qui était un peu rapide, parce qu'on n'avait pas énormément de temps, mais c'était très chaleureux. Et je les avais vraiment beaucoup encouragés. Je trouvais que c'était formidable de consacrer des années de leur vie comme ça, pour être les témoins de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Et maintenant, je suis très ému de voir le résultat. Donc, bravo, j'ai adoré ce film, comme tout le monde. Là, vous avez senti qu'on a été profondément touchés. Et pas seulement parce que je partage vos idées, parce que vous savez effectivement que je suis dans ce chemin-là aussi. Je suis un militant écologique de la première heure. Je me passionne pour les questions de spiritualité et j'adhère totalement à tout le propos du film qui passe du constat du monde dans lequel on est avec toutes les problématiques écologiques pour arriver à la conclusion qu'il faut effectivement faire un travail sur soi et changer sa vision personnelle du monde si on veut que le monde change. Donc ça, c'est effectivement un propos auquel j'adhère totalement. Mais ce que j'ai aimé aussi dans le film, c'est le ton. C'est l'humilité et l'humour. Et ça, c'est des grandes qualités d'esprit. J'ai trouvé que... Bon, l'humour, il est omniprésent et l'humilité, elle est présente aussi lorsque vous dites très justement deux choses qui m'ont marqué, parce qu'on est tous concernés par ça, lorsque vous dites « on fait aussi partie du problème et on est schizophrène ». Et c'est exactement comme ça que je définirais ce que nous vivons tous, c'est qu'on fait partie du problème. On dénonce tout ça, mais on a un smartphone, un ordinateur portable fabriqué en Chine, on voyage en avion et donc on contribue au réchauffement climatique. Donc c'est extrêmement difficile de s'extraire du problème. Et en même temps, tout en étant schizophrène, on essaye à notre petit niveau, de semer des idées, d'avoir des petits comportements différents, de se transformer dans des petites choses quotidiennes. Et j'ai envie de dire, il ne faut pas désespérer de ça. Il faut savoir qu'on mourra sans doute schizophrène, si l'humanité existe encore quand on mourra, mais on mourra sans doute schizophrène. Mais tant qu'on aura essayé d'apporter notre petite pierre, comme dit Pierre Rabhi avec l'image du colibri, on aura apporté notre petite goutte d'eau, on aura fait notre petite part des choses. Je crois que c'est ça l'essentiel, et c'est ce que vous avez fait avec ce film. Donc merci infiniment.
Merci Frédéric, bel hommage. Bel hommage. Alors, on ne pouvait pas attendre pour poser cette question à Frédéric Lenoir, mais on va vous proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se fait habituellement. Parce que d'habitude, ce qui se passe, c'est quand on sort d'un film, eh bien on commence à échanger nos points de vue, et en fait on va assez rapidement dans la tête, il faut dire. Et ça, c'est un film qui est beaucoup un film de cœur. C'est un film qui nous touche dans nos valeurs, sur le sens, pourquoi on est ici. Et on aimerait vous inviter à faire un petit exercice pour aller voir comment ce film vous a touché. Et je vais peut-être encore juste dire une chose avant. C'est que Marc et Nathanaël, non seulement, comme vous l'avez peut-être vu au départ, ont financé ce film, ont produit ce film grâce à des internautes. Il y a eu près de 900 et quelques internautes qui ont financé ce film. Mais figurez-vous qu'ils ont fait la même chose avec la distribution, c'est-à-dire qu'ils ont été cohérents jusqu'au bout. Ils ont bien sûr été voir des distributeurs pour amener ce film dans les salles de cinéma, mais leur est arrivé ce qui arrive à la plupart des cinéastes, c'est qu'il faut remplir certains critères, arriver à une certaine rentabilité dans un certain délai, et ils ont décidé qu'ils n'allaient pas rentrer dans ce cycle-là. Donc ils ont choisi de mobiliser des gens qui les soutiennent et de distribuer eux-mêmes leurs films. Et figurez-vous qu'en 5 mois, ils ont fait plus de 100 000 entrées en France. Et je crois que là aussi, on peut les applaudir. Donc espérons qu'on n'est qu'au début de ce succès. Et l'autre chose qu'ils aspiraient en distribuant le film eux-mêmes, c'était d'offrir aux personnes comme vous aujourd'hui une autre expérience que de juste consommer un film. C'est-à-dire de pouvoir regarder, prendre un petit moment pour regarder, mais en quoi est-ce que ça m'a touché et comment est-ce que peut-être ce film peut m'inspirer pour demain et pour après-demain. Donc ce qu'on vous propose de faire, on va juste faire ça pendant une ou deux minutes, c'est d'aller regarder, aller rechercher en vous quel est le moment qui vous a le plus touché du film. Alors certainement qu'il y a beaucoup de moments qui vous ont touché, mais il y a peut-être un moment en particulier qui vous a particulièrement touché. Et mettez le doigt dessus, et quand vous arrivez à identifier ce moment-là, allez regarder ce qu'il y a derrière. De quelle valeur est-ce que ce moment est en train de parler? Parce qu'inévitablement, vous avez une émotion, et cette émotion est en train de dire quelque chose sur quelque chose qui est important pour vous. Pour certains, c'est peut-être l'amitié, d'autres l'amour, d'autres la solidarité, d'autres la créativité, peut-être d'autres le voyage. Et une fois que vous mettez le doigt là-dessus, on vous offre maintenant une minute pour vous tourner vers votre voisin et de partager ça ensemble. Une minute à vous, et on revient après. 3, 2, 1, 0. Merci, voilà. On vous invite à revenir vers nous. Alors, on a envie de vous offrir un maximum la parole d'échanger avec nos invités. Mais on va commencer quand même par leur poser quelques petites questions. Et la première, à Marc et Nathanaël, en fait, au départ, quelle était votre intention ?
Alors, qui répond, toi, premier ?
Bon, mais au départ... Nous, on s'est laissé un peu surprendre, parce qu'au départ, on était en train de voyager, et on a commencé à prendre des images, et on n'avait pas du tout l'intention d'amener un film au cinéma, ou quoi que ce soit de ce genre. Donc, en fait, on est parti d'une intuition, en fait, au départ. On est parti du sentiment, déjà, on était content de se retrouver, on ne s'était pas vu depuis 10 ans, et puis on voyait qu'il y avait plein de trucs en commun. Et on a senti qu'il y avait quelque chose à faire, qu'il y avait un message qui était en train de poindre, et qui était pour nous, qui devenait audible, en tout cas. Et donc, on a commencé à voyager sans trop avoir de projet. On dit parfois que c'était un peu un film de vacances qui avait mal tourné, parce qu'on avait juste une petite caméra de touriste, et on s'était dit, on va faire un petit film pour YouTube. On a eu la chance de rencontrer, du coup, Vandana Shiva assez vite, qui est quelqu'un de très ouvert, hein, qui parle à beaucoup de jeunes comme ça, qui viennent la voir, etc. Et puis assez vite, donc, quand on a commencé à y réfléchir, on s'est dit, bah, finalement, si on voudrait aller au bout de quelque chose, l'idée, ce serait de pousser les gens à se reposer des questions. C'est-à-dire de ne pas arriver avec des solutions clés en main, mais de dire, finalement, on est ici sur Terre, on est bientôt... une poignée de milliards, 6 ou 7, je ne sais plus, finalement, ça peut nous interroger sur tout un tas d'aspects de la vie, et puis on a le droit aussi d'être émerveillé par ça, par le fait d'être là et d'être au contact de toutes ces choses, belles ou pas belles d'ailleurs, parce qu'il y a cette diversité de phénomènes qu'on côtoie tous les jours, mais en tout cas, nous, ce qui nous a semblé, c'est quand on a la chance de voyager comme ça, on s'ouvre, on se questionne, on va au-devant de l'autre, et donc du coup, de partager ça, ce questionnement, et de dire, voilà, il y a certains thèmes qui méritent aujourd'hui d'être remis sur le devant de la scène, et si on pouvait voilà, inciter les gens à s'en emparer de nouveau et à se reposer des questions, ben, ça serait déjà pas mal.
Merci, Marc.
Moi, l'intention de départ, moi, c'était vraiment d'être... quand j'ai regardé tous les documentaires dont parle Nathanaël, après, c'était d'être confronté à une prise de conscience, en fait, mais qu'est-ce que je peux faire de cette prise de conscience qui était souvent douloureuse, qui met en colère, qui met dans un sentiment d'impuissance ? Et de se dire, bah, j'essayais d'en parler à tous mes copains après, même en école de commerce, et ils ne voulaient pas voir les documentaires où il y avait une vision assez cynique en fait, des choses, et que c'est comme ça, on ne peut rien faire. Et j'ai eu l'impression que c'était important de combattre ce cynisme, en fait, mais pas par des arguments, mais pour montrer aussi la beauté de la vie et la valeur, en fait. Et j'avais la chance de vivre un tout petit peu avant en Bolivie et de passer du temps avec des communautés indiennes en Amazonie. Et ils m'avaient montré cette idée aussi de l'interdépendance, du rapport à la nature qui était différent pour eux. C'est la terre qui nous nourrit, en fait, donc c'est le point de départ. Et bizarrement, je l'avais un peu oublié, en travaillant, en me disant, il faut rembourser le prêt, j'ai fait une école de commerce, tout ça, et j'ai eu l'impression que ce ballon, moi, ça m'a rappelé à l'ordre, de me dire, hop, 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 tu sais quand même des choses, et en fait, je me suis dit, voilà, de cette intention, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à montrer ? Après, il n'y avait pas plus que ça, parce que moi, je n'avais même pas vu les films de Nathanaël, j'ai découvert son film, en fait, je ne sais même pas s'il savait filmer, en fait, moi, au départ, il a été géographe, et puis j'ai regardé le film en Inde, comme ça. Et je me suis dit, bon, bah voilà, là, tu le prends pas personnellement, mais le film, tiens, c'est un peu chiant quand même, c'est un film de géographe. Mais bon, on va faire un truc, voilà, on va essayer de changer le ton et de se dire comment est-ce qu'on peut trouver un film qui soit à la fois sur des vrais propos, comme j'avais vu, ces films qui passent sur Arte le soir quand tout le monde dort et que personne regarde, avec du fond, les trucs genre J'irai dormir chez vous, un peu Les Nouveaux Explorateurs avec du sac à dos où on fait de la rencontre, et en même temps les beaux paysages qu'on peut voir dans les films de Nicolas Hulot. Donc c'était de mélanger un peu tout ça, mais on pensait pas qu'on aurait aussi beaux intervenants, aussi incarnés, aussi cohérents, et qu'on allait les rencontrer comme ça, presque par hasard, en fait. Donc c'était vraiment plus la vision, l'intuition, et après garder vraiment, je pense, une forme d'intention, et de pas lâcher, en fait, de dire c'est ça qu'on veut, d'être ouvert, d'en parler autour de nous, et puis là on a vu plein de belles choses arriver, donc c'était plus ça. Mais écouter cette intuition qu'on a partagée vraiment ensemble, de dire voilà, c'est ça qu'il faut faire, après on mettra un pied devant l'autre, et je pense que c'est vraiment en marchant après que le chemin s'ouvre, et nous on l'a vraiment vérifié. Mais c'était voilà, plus une vraie intuition au départ.
Beaucoup d'intuition et d'écoute. Et on verra tout à l'heure aussi la notion de quand lancer le film. Vous avez été patient pour attendre le bon moment. Mais juste avant, Frédéric Lenoir, je pense que certainement qu'en France, vous faites partie des personnes qui permettaient à tout un chacun d'avoir accès à la spiritualité, à la connaissance de soi. Vous écrivez de nombreux ouvrages. Vous écrivez aussi pour le théâtre et... Quand vous voyez ce film, vous vous projetez il y a 5 ans, quand Marc et Nathanaël sont venus vous voir, Et vous voyez le chemin qu'il y a eu depuis 5 ans. Il me semble que la notion de la spiritualité, il y a 5 ans, était plus taboue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on en parle très ouvertement. Comment est-ce que vous percevez cela et ce chemin qui est en train de se faire ?
Difficile. Moi, je dirais que les choses sont ambiguës. C'est-à-dire, d'un côté, oui, il y a un chemin qui continue de se faire. Il y a de plus en plus de gens qui sont conscients. On rencontre de plus en plus d'associations qui se créent localement pour trouver des solutions alternatives, des gens qui changent de vie, même des gouvernants qui évoluent, puisque vous savez que très récemment, les deux plus gros pollueurs de la Terre, les États-Unis et la Chine, ont commencé à accepter l'idée qu'il fallait effectivement moins polluer, et ils vont accepter probablement à Paris, là, au mois de décembre, de signer une charte plus contraignante. Donc il y a des évolutions qui se font très positives. Puis à côté de ça, le système continue de s'emballer, plus personne ne le contrôle, on va certainement avoir de nouveaux krachs boursiers, on voit très bien que la pollution continue à une vitesse grand V, les inégalités se creusent de plus en plus, et il y a un raidissement à côté de cette ouverture vers la spiritualité, qui est très positive, il y a un raidissement des religions qui est dramatique. Et on voit un vrai choc des religions à l'échelle planétaire, avec un extrémisme qui grandit et de l'intolérance qui grandit un peu partout. Donc les deux progressent ensemble, je dirais le meilleur et le pire. Mais je voudrais dire, je voudrais revenir à ce que vous avez proposé et dire un petit mot sur moi, ce qui m'a le plus touché dans ce film. Enfin, beaucoup de choses m'ont touché, mais il y a une image qui m'a particulièrement marqué, c'est quand vous filmez cette femme en Inde qui se met à rigoler, à rire, qui sourit, qui est dans la joie, etc. Et on voit tous les enfants sont aussi, dès qu'on voit des enfants en Inde, etc., et en Amérique du Sud, ils sont toujours dans la joie. Et j'ai beaucoup aimé que vous terminiez le film sur la joie, parce que je crois que c'est vraiment le fond du problème. On est, dans la naissance, dans la joie. Je crois que la joie de vivre, c'est un cadeau que la vie nous fait à tous. Mais on perd en Occident la joie de vivre. Alors qu'on voit que dans tous ces pays pauvres, où la vie est beaucoup plus difficile, la joie de vivre est toujours là. Elle habite, moi j'ai voyagé comme vous, dans plein de petits villages perdus. On voit des gens travailler très durement, qui vivent à 10 dans une petite pièce, et ils sont toujours en train de rire, ils sont toujours dans la joie. Et je me dis, au fond, qu'est-ce que nous avons perdu en Occident ? Nous avons perdu la simplicité du rapport à la vie. Nous ne sommes plus dans la joie de vivre. Et nous sommes obligés, parce que nous avons acquis des choses fondamentales, des libertés, nous avons fortifié la puissance de l'individu qui échappe au groupe, et donc c'est une liberté fondamentale. On peut choisir dans notre métier, on peut choisir notre lieu de vie, on peut choisir notre sexualité, on peut tout faire. Et en même temps, on a développé notre ego de manière extrême. Tout passe à travers nous. Nous sommes le centre du monde. Chacun d'entre nous, on est le centre du monde. Et donc, tout passe à travers le prisme de l'agréable, du désagréable. Qu'est-ce que je peux prendre ? Qu'est-ce qui peut me nourrir ? Et dans le cadre, le développement de l'individualisme narcissique, dans le cadre du capitalisme libéral, ça donne qu'on est devenu des consommateurs et que tout passe par le biais de l'individu consommateur. Et tout ça, finalement, aurait pu nous apporter, encore une fois, des libertés formidables qui sont là, qui sont indispensables et pour lesquelles je me bats. Et en même temps, ça nous a fait perdre peut-être l'essentiel, qui est la joie de vivre. Et la joie de vivre, elle vient du fait qu'on se sent relié au monde, relié à la nature, relié aux autres, et qu'on n'est pas sans arrêt en train de se poser la question « comment je pourrais faire mieux, avoir plus ?» Et donc, il faut redécouvrir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut passer du toujours plus au mieux-être, de la quantité à la qualité, pour redécouvrir les portes de la joie. Et ça, c'est vraiment le témoignage que nous offrent beaucoup de gens qui vivent dans ce qu'on appelle le tiers-monde ou les pays en voie de développement. Et c'est le témoignage que nous montrent les enfants avant qu'ils se soient compliqué la vie avec comment être connu, avec les peurs, avec les émotions qui vont fortifier leur ego d'individu séparé du monde, séparé des autres. C'est un point qui me semble essentiel. Et puis deuxième chose, si je peux encore parler une minute, deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la partie que vous avez conservée de l'interview où je vous parle de la coupure du passage du paléolithique au néolithique, ça me semble effectivement un point très important, la rupture avec la nature. Je pense que c'est le point de départ, la cause de départ de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, si on veut comprendre la cause de ce qui se passe aujourd'hui dans l'humanité, il faut revenir au passage du paléolithique au néolithique, c'est-à-dire il y a 12 000 ans. Le capitalisme libéral n'est que la conséquence de tout ça. Mais il y a un point sur lequel qui n'a pas été évoqué dans le film et que je voudrais signaler rapidement maintenant, c'est que ce passage du paléolithique au néolithique n'a pas eu que comme conséquence la coupure de l'homme et du monde et de la nature. Il y a une autre conséquence qui explique aussi tout ce que nous vivons aujourd'hui, et je voudrais en dire un tout petit mot, c'est que c'est la différence et la hiérarchisation entre l'homme et la femme, entre le masculin et le féminin. Je pense que c'est une des clés les plus importantes pour comprendre les causes de nos problèmes et les solutions pour les résoudre. C'est que dans un monde préhistorique où on vivait dans des tribus nomades, sédentaires, etc., tels qu'on peut encore les observer aujourd'hui à travers des peuples en Amazonie, ce qu'on appelle les peuples premiers, il n'y a pas de hiérarchisation entre l'homme et la femme. Les valeurs féminines, les valeurs masculines sont tout aussi importantes, et l'homme et la femme ont autant de responsabilités, et d'ailleurs souvent les chefs ou les chamans sont des femmes. Et puis le passage à la sédentarisation, lorsqu'on a construit des villes, lorsqu'on a construit des cités, eh ben, ce sont les hommes, mâles, qui se sont un peu emparés du pouvoir. Les femmes les ont laissé faire sans doute parce qu'elles en avaient, elles y attachaient moins d'importance. Et du coup, la gestion, l'administration de la cité, le gouvernement, l'armée, le pouvoir religieux a été pris par les hommes. C'est ce qu'on appelle l'avènement des sociétés patriarcales. Et du coup, les valeurs masculines l'ont emporté sur les valeurs féminines et l'homme a dirigé le monde. Et ça, c'est quoi? C'est la primauté de la compétition, du pouvoir, le désir de domination, le désir de rentabilité, le fait d'être valorisé socialement. Et c'est tout ça qui est en train de nous tuer, de tuer la planète. Toutes ces valeurs-là sont des valeurs typiquement masculines que les hommes ont mis en œuvre parce qu'ils ont pris le pouvoir. Et donc il faudrait, et la révolution qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est que les femmes sont en train de reprendre de l'importance de la société. Elles sont en train de s'émanciper de la tutelle des hommes. Elles sont en train d'avoir des postes de responsabilité. Et partout où elles sont, elles font évoluer les choses. Parce qu'elles sont plus en lien avec la vie, avec la communion, avec l'humain, avec les valeurs essentielles. Et c'est ce que nous avons tous à redécouvrir, nous aussi les hommes, à faire grandir les valeurs féminines, parce que je crois que c'est cette valorisation du féminin, d'aller vers des valeurs de lien contre des valeurs de compétition qui résoudra profondément le problème. Merci.
Merci.
Ça, on l'aurait mis dans le film. Si on l'avait eu, on l'aurait mis dans le film. Si on l'avait eu, pardon.
Merci Frédéric. Alors, avant de vous passer la parole et que vous puissiez poser des questions, peut-être encore une question à chacun d'entre vous, Marc et Nathanaël. C'est votre cheminement personnel depuis le début de ce film et aujourd'hui. C'est vrai que les trois hommes que nous avons ici, sans aucun doute, sont des êtres qui s'intéressent à la vie, au sens de la vie. Et chacun fait son chemin. Je pense que ce monsieur-là fait celui qui a la tâche la plus, on va dire, stimulante pour apprendre sur la vie. Il a un petit Arlando qui a 5 mois. Et s'il y en a qui nous apprennent beaucoup sur la vie, c'est nos enfants.
Ça, c'est vrai.
Vous pouvez dire quelques mots sur le recul que vous avez, parce que je crois que ce qui est très touchant, en tout cas moi, ce qui m'a beaucoup touché dans ce film, c'est que ce n'est pas seulement un témoignage des alternatives qui existent sur la planète, c'est votre histoire, votre cheminement, en quoi ça a bougé des choses en vous. Et si vous pouvez juste dire quelques mots entre là et aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui.
Mais déjà, très rapidement, c'est vrai qu'en ayant un petit garçon, donc, qui est par là, vous allez peut-être l'entendre tout à l'heure, c'est vrai qu'il rigole tout le temps. Et ça, déjà, c'est une première leçon. Et voilà, et là, il se fend la poire du matin au soir. Il fait ses dents et la malle, il rigole quand même. Voilà. Et donc ça, c'est vrai que c'est une leçon assez forte. Et bon, bah, ça redonne beaucoup d'humilité. Puis ça nous met aussi dans une... Ça nous remet en perspective avec notre lignée, avec nos ascendants, nos descendants, etc. Donc c'est quelque chose d'assez fort, d'assez dur aussi. Donc ça, c'est bien aussi le goût de la difficulté, le goût de l'effort. L'histoire de ce film, c'est que ça a été aussi beaucoup d'efforts et beaucoup de moments de doute. Parce qu'effectivement, on était enfermés dans des caves avec nos ordinateurs. Donc avant qu'on fasse la souscription et que du coup ça commence avec un peu une exposition à convaincre des gens qu'il y avait une possibilité de faire quelque chose d'intéressant. Donc on était quand même assez seuls. Et donc on a traversé pas mal de faces. Et donc depuis l'interview avec Frédéric jusqu'au lancement du film, il y a eu, je crois, 3 ans et demi qui se sont écoulés, pendant lesquels ça n'a pas été du tout linéaire. Et donc tout ça a été un chemin, en fait, et de bonheur, parce qu'il y en a eu aussi plein, et de rire, et voilà. Et donc en fait, en ayant commencé ce parcours initiatique, en fait, on a commencé à ouvrir un peu des portes. Et c'est des portes qui se referment jamais. Et le chemin en lui-même, ce qui compte, c'est le chemin. On arrive, je ne sais pas si on arrivera quelque part un jour, mais de s'être mis en chemin, c'est ça qui est extrêmement rafraîchissant, parce que de rester dans un questionnement, c'est toujours stimulant, et essayer de ne pas s'asseoir sur des vérités, mais toujours être stimulé. Et puis voilà, maintenant on a la chance de rencontrer le public, d'avoir des échanges aussi très riches. Donc on a enclenché en fait une dynamique positive qui est toujours en cours et qui nous nourrit un petit peu au jour le jour.
Voilà. Magnifique, merci Marc. Vous pouvez l'applaudir.
Nous, pour moi, ça a vraiment été un chemin initiatique. Et pour revenir même sur ce que tu disais tout à l'heure, Frédéric, j'ai entendu qu'il y avait un proverbe la dernière fois qui disait, en fait, je crois que c'est un proverbe africain, qui dit « Si on ne fait pas l'initiation des hommes, en grandissant, ils brûleront le village. » Et donc, il y avait cette idée qu'en fait, si on ne fait pas cette initiation, justement, à ces valeurs aussi féminines qu'on a tous, et qu'on est là pour protéger la vie, en fait, et aussi la vie dans son ensemble, je pense que, voilà, on tombe dans cette société-là destructrice, on accepte cette marchandisation. Donc nous, ça a été cette initiation de montrer toutes ces personnes qui vivaient de manière cohérente, qui nous ont permis aussi de toucher le sacré, en fait, de réenchanter le monde. Et après, ça a été le plus dur, en fait, ça a été de vivre ça. Moi, j'ai l'impression que le film, il aurait pu sortir en 2011, mais nous, on n'était pas prêts. On n'avait pas digéré au niveau cellulaire, en fait. On aurait agité des concepts intellectuels et on serait fait plaisir, mais en fait, il n'y avait pas l'enracinement qui va avec. Et ça, c'est le temps, en fait, de voir. Nous, je pense qu'on tout ce qui est dit dans le film, on a essayé de le mettre en pratique, c'est pas toujours facile en fait, mais de le vivre en fait, ça a donné pour moi en tout cas un autre sens aussi à l'existence, d'essayer d'avoir cette cohérence, et ça nous a donné voilà beaucoup de joie, et je pense qu'on voit plus le monde de la même manière, c'est clair depuis la fin du voyage et encore aujourd'hui, et on a fait plein de conclusions différentes, et la dernière conclusion finalement c'est Satish Kumar, parce qu'il y en a eu plusieurs, sur la confiance, et cette idée qu'aujourd'hui on dit, les deux dernières phrases qu'il dit c'est recréer, invente un autre mode de vie, en fait. Donc c'est aussi comment est-ce qu'aujourd'hui on peut être cohérent et pas forcément accepter le cadre dans lequel on essaye de nous mettre et les normes qu'on a fini par accepter. Donc changer ces normes et laisser les gens être autonomes et laisser les gens vivre autrement, je pense que ça a été assez fondamental. Dire comment on peut réinventer un autre vivre ensemble, parce qu'on peut mutualiser les choses différemment, avoir un autre rapport à la communauté, et en même temps la confiance, de dire ayez confiance, si ce que vous faites c'est juste la vie, après vous vous portez. Et on le vit tous les jours avec le film. On a eu beaucoup de gens qui sont venus nous aider pour finir le montage, pour faire la post-production, pour produire le film, pour le distribuer. Donc cette idée qu'on est avant tout une communauté et qu'ici on se relie à une vision commune, en fait, il y a une énergie qui s'empare des projets, de ce qu'on fait, qui est beaucoup plus puissante et plus forte que nous, ce qu'on est capable de faire avec nos petits bras musclés et notre cerveau de pigeon. Et je pense que c'est ça qui est fondamental, en fait. Et c'est là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à trouver la bonne posture pour amener des idées et avoir une posture plus de sage-femme qui accompagne les choses et pas de vouloir aller au bout, en fait. Je pense que c'est vraiment avoir cette humilité par rapport à ces messages-là. Et ça, c'est un truc qu'il faut travailler tous les jours pour être sûr d'être bien aligné. Je pense que les proches, les enfants, c'est le meilleur enseignant spirituel. On se rend compte, si on n'est pas là, c'est d'aller manger avec sa famille ou d'aller avec des proches et de voir si justement on est encore bien cohérent avec ce qu'on propose. Donc c'était plus ça aujourd'hui qu'on a vécu depuis 5 ans, quoi.
Merci Marc. On entend beaucoup de cohérence hein, de l'un et de l'autre. On réalise que ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivés là. On va prendre du temps pour vous. Alors moi, je ne vois rien. Je dois dire que je n'ai pas... Est-ce qu'il y a une personne bénévole qui pourrait venir pour le micro et vous... Déjà le micro, magnifique. Alors peut-être que je vais préciser une chose, c'est que Frédéric Lenoir va devoir partir un tout petit peu plus tôt. Il est avec nous encore un quart d'heure. Donc, je vous le dis pour ceux qui voulaient absolument... poser une question à Frédéric Lenoir, on a un quart d'heure, et puis si ça vous dit, on aura encore un petit moment avec Marc et Nathanaël. Première question. Alors là, je vois deux personnes, oui.
Bonjour, est-ce que vous avez pensé diffuser votre film dans les lycées et les écoles et les universités?
C'est en cours. Ah. Oui, oui. Alors, peut-être Marc, tu peux en dire deux mots, parce que tu vas souvent dans les grandes écoles aussi en parler.
Oui, pour le faire, on a besoin de vous. Hein. Depuis le départ, c'est comme ça. C'est des gens qui nous ont spontanément proposé, en fait, qui ont vu le film, qui veulent le montrer, et essayer de partager cette vision, d'avoir un débat autour de cette vision. Donc, en France, il y a ce qu'on appelle la chronologie des médias, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort un film, même indépendant en salle, il faut attendre 7-8 mois pour pouvoir après faire un DVD. Donc là, à partir de mi-novembre, ça va être possible. Et donc là, l'idée, nous, c'est qu'il n'y ait pas de droit de projection sur les films, enfin sur le film, et qu'on puisse organiser, voilà, dans les écoles, des projections. Moi, je sais que je l'ai fait en école de commerce il n'y a pas longtemps, à l'ESCP, à Paris. Et c'était drôle parce que c'est une dame qui, enfin, c'est une amie à moi qui travaille dans l'entrepreneuriat social et qui l'a montré à ses étudiants. Et à la fin du film, justement, elle est venue me voir et m'a dit, là, il y a un problème avec ton film, parce que les étudiants, ils sont venus me voir et elle m'a dit, ils m'ont fait la remarque de dire, bah, peut-être que faire ce qu'on fait, des baskets équitables ou essayer de faire des choses, finalement, c'est pas suffisant. Il faudrait mieux qu'on parte voyager pour être sûr d'être vraiment aligné avec qui on est, en fait. Et derrière, elle m'a dit, moi, j'ai de les détourner de la finance ou de l'audit ou de trucs comme ça, donc on peut pas me les envoyer tous voir les chamans, mais faut faire attention. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il y a une vraie résonance. Je pense que les étudiants, ils se demandent en fait pourquoi est-ce qu'ils vont faire des études, ils ne sont pas sûrs de trouver du travail. Il y a une vraie souffrance dans le monde de l'entreprise. Donc je pense que c'est très important d'amener ce questionnement-là le plus tôt possible, en fait, parce que je pense qu'il n'y a pas vraiment de place pour eux dans ce système-là. Donc de commencer à réinventer, je pense qu'il y a toute la créativité qu'il faut à ces âges-là pour essayer de réinventer autre chose. Donc on va essayer de mettre aussi, voilà, le paquet sur les lycées, les écoles, mais il faut que ça vienne des gens, en fait. Nous, on ne veut pas non plus imposer le film, dire voilà, c'est comme ça, mais s'il y a des gens qui ont envie de le porter et de le partager, avec plaisir, on a tout fait sur le site pour que ça soit simple, avec des kits de projection, donc voilà, on va essayer que ça soit le plus horizontal possible. Alors, et c'est sur le site enquête de sens, lefilm.com, en fait, où il y aura tout ça, je pense, d'ici quelques temps, plus les autres interviews, parce que là, vous avez vu 1 minute 30, mais il y a, à chaque fois, il y a des interviews de 30, 40 minutes, donc on va aussi sur le site de laisser les interviews pour que vous puissiez avoir toute l'interview de Frédéric, de Satish Kumar, parce que voilà, ça a été un gros dilemme de couper au montage 80 heures de rush pour faire tenir 1h30.
Peut-être qu'on peut dire aussi que vendredi après-midi, il y a eu 250 gymnasiens d'Yverdon qui ont eu la chance de voir le film. Et d'ailleurs, tous les bénévoles qui sont ici, et j'ai envie qu'on les remercie parce que pendant 3 jours, ils ont fait un travail exceptionnel. Merci. Et je suis d'autant plus heureux qu'ils soient là parce que quand on a vu le film vendredi, ils ont dû partir avant ce moment privilégié qu'on a maintenant parce qu'ils devaient prendre le train pour venir soutenir cet événement à Beausob pendant 3 jours. Prochaine question.
Oui, bonjour. Déjà, j'aimerais profiter pour remercier Frédéric Lenoir pour le travail immense qu'il fait pour vulgariser beaucoup de choses pour nous. Moi, je suis fan de ses émissions de radio, Les Racines du Ciel, de ses livres. Il nous apporte beaucoup, donc merci. Ma question, je ne sais pas si je vais arriver à l'exprimer clairement, mais c'est... J'ai bien aimé peut-être un passage qu'il y a peut-être peu de monde a remarqué, mais c'est ce journaliste qui dit... Ok, le capitalisme est arrivé au bout, mais ce serait dommage de renier tout ce qu'il a... Enfin, il faut changer de modèle, mais ce serait aussi stupide de renier tout ce qu'il a apporté, parce que c'est vrai que ce film, bah, il a été monté grâce à Internet, on est tous venus ici avec des voitures ou des avions, donc la création de l'homme, la modernité, c'est vraiment génial, c'est ce que l'homme est capable de créer. Et j'ai peur des fois, quand on... part dans un schéma inverse, qu'on devienne avec beaucoup de clichés dans l'autre sens, quoi. Revenons avec des choses, voilà, avec le Timeno Salade, etc. Et j'arrive pas à tout mettre ensemble. Je pense que, bon, ben voilà, les noms de Nestlé ont été cités, mais je pense, pour avoir 2 amis qui travaillent là-bas, pas moi, mais ils font aussi des choses intéressantes, je pense qu'il faut vraiment mettre en garde que, oui, nous, on doit changer, mais pas changer pour après redire... lui, c'est tout pas bien, lui... Enfin, c'est beaucoup plus simple, c'est pas blanc ou noir, c'est gris. Et comment mettre toute cette équation ? Moi, la modernité, la technologie, ben, peut-être parce que j'ai une formation là-dedans, je pense qu'il y a des très bonnes choses. Et enfin, voilà, je sais pas si j'ai été claire, en tout cas, merci.
Frédéric ?
Dire un petit mot me concernant, puis peut-être que vous aurez aussi envie de répondre. Et moi, effectivement, c'est peut-être la seule chose qui m'a gêné dans le film, c'est à un moment donné, quand mon ami Pierre Rabhi, que j'aime énormément... dit sans aucune nuance, toute la modernité n'a apporté que du mal. Enfin, grosso modo, c'est ça l'idée que... Et là, je me suis dit, mais il pète les plombs. La modernité, ça a aussi apporté les soins médicaux. Je veux dire, j'ai une hernie inguinale, heureusement que je vais pouvoir me faire opérer, sinon je vais mourir demain d'une occlusion intestinale. J'ai une rage de dents il y a 2 mois, mais heureusement qu'on a des soins dentaires efficaces. C'est-à-dire que la modernité a apporté des progrès technologiques, des progrès scientifiques, mais fondamentaux pour nous aider à vivre. Et de fait, on vit mieux, plus longtemps, etc. Et je ne parle pas d'un... Enfin, on pourrait faire... effectivement une recension très importante de tout ce que la révolution scientifique et technologique nous a apporté de positif.
y compris le fait de se connaître, le fait de dialoguer à travers toute l'humanité, le fait de pouvoir voyager, rencontrer les autres, sortir de notre ignorance crasse. Montaigne disait déjà au XVIe siècle, lorsqu'on a amené des Brésiliens qu'on a été prendre dans le Nouveau Monde, on les amenait à la cour et on les regardait comme des sauvages et des animaux à peine. Et Montaigne disait, mais si on les observe bien, ces gens-là nous apprennent à vivre. Ils passent leur temps à danser. C'est ça la vie, c'est être dans la joie. Et regardez-les, ils ont gardé la joie de vivre, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc le fait de pouvoir voyager grâce aux avions et tout, c'est un enrichissement colossal. Donc je suis entièrement d'accord avec vous, il faut faire le tri dans la modernité. Et donc il y a des choses extrêmement positives. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est plutôt l'idéologie consumériste, matérialiste, qui est portée dans la modernité. Parce qu'on peut avoir une modernité technologique qui nous apporte plein de bonnes choses, mais après on peut en faire un usage très différent. Et donc c'est à nous, effectivement, aujourd'hui, consommateurs, et là je rejoins Pierre Rabhi, je suis entièrement d'accord avec Lou, d'aller vers plus de modération. Et donc ne rentrons pas dans le slogan, dans l'idéologie de la modernité du toujours plus. Sachons dire stop. J'ai pas forcément besoin de 2 voitures. J'ai pas forcément besoin de 3 maisons. J'ai pas forcément besoin de tous ces objets qui nous encombrent. On peut aller vers plus de modération. Et puis on peut s'arranger pour savoir où les choses ont été produites, comment. On peut manger localement. Enfin, il y a un tas de discernements que nous pouvons avoir qui, si tout le monde fait ça, ça va changer le monde. Les multinationales ne vont plus exister. Si on consomme tous localement, avec des semences diversifiées, etc. Donc là, on a des actes, une responsabilité en tant que consommateur qui peut changer le monde. C'est pour ça que je crois qu'il faut effectivement faire un discernement critique en disant qu'il y a des très bonnes choses dans le monde moderne, comme la liberté individuelle, j'en parlais aussi tout à l'heure. Il y a aussi des très mauvaises choses, à nous de savoir faire le tri.
Ou pas. Aujourd'hui, moi, il y a deux choses sur le film où encore je peux être un peu choqué. Justement, c'est par rapport à ça qu'on a vu la vision, elle a augmenté, elle a changé. C'est bon, Pierre, il est un peu provocant et moi je trouve que c'est bien. On avait tellement une idéologie tellement forte que le progrès, c'est forcément positif en fait. Sans savoir qu'est-ce qu'on met derrière le terme progrès en fait. Moi, pour moi, le progrès d'une société ou d'un individu, c'est aussi une connaissance de soi. C'est comment est-ce qu'on arrive à vivre ensemble, à prendre soin de la planète. Si là, on vit super bien pendant 20 ans et qu'il n'y a plus de génération future, qu'il n'y a plus de planète derrière, je ne sais pas si ce sera vraiment un progrès en fait. Donc, c'est de le mettre dans une perspective de long terme. Après, nous, on est conscients qu'on a fait ce film grâce à la modernité, à la technologie aussi. Donc pour moi, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut prendre. C'est davantage un nouveau mode de vie où on prend le meilleur de la modernité, le meilleur de la technologie, mais en faisant ce détour par les sagesses anciennes, par ces peuples premiers qui nous réapprennent à vivre et comment est-ce qu'on réinvente ça. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que votre question, elle est juste. C'est qu'on sent quelque chose qui ne fonctionne pas. En même temps, on a été très loin. Le monde est beaucoup moins violent. C'est ce que disait Mathieu Ricard hier. En fait, le monde est beaucoup moins violent. Il n'y a plus de guerre, en fait, à part que... On en provoque dans d'autres pays, mais en tout cas, le monde est beaucoup plus pacifié qu'à une époque. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de positif. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on arrive à... Moi, je pense que c'est vraiment de contraindre, parce que la crise écologique, elle vient de nos comportements consuméristes, forcément, mais aussi des indicateurs de pilotage des entreprises. Moi, il y a un documentaire qui m'a fait vriller, justement, c'était The Corporation, qui compare, en fait, la multinationale à un psychopathe, dans le sens où, en fait, elle dit, en fait, le seul... la finalité ultime d'une multinationale, c'est maximiser le profit de ses actionnaires, en fait. Si on en reste là, en fait, forcément, on ne va pas aller très loin. Si, par contre, on met dans les indicateurs de pilotage des entreprises l'humain, la nature, et qu'on met plus de contraintes, en fait, ça peut être différent, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment de réfléchir à les indicateurs de croissance, déjà, au niveau national, et après, au niveau d'une entreprise. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise, là, on doit aller discuter avec les gens de chez ADO, qui font des entreprises libérées, où il n'y a plus de chefs, en fait, de voir comment est-ce que ça va fonctionner. Et nous, on est assez ouverts là-dessus. L'idée, c'est vraiment voir la différence entre les structures et les humains. Et il y a des gens très bien dans les multinationales, il y a des gens horribles dans les ONG, ça ne veut rien dire. Donc c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver vraiment une vision et derrière les contraintes qui font qu'on respecte les règles du vivant et qu'on se réaligne en tant qu'humain sur la vie et les règles du vivant. Le jour où on refait ça, après, voilà, il y a de la prospérité, de la croissance pour tout le monde pendant très longtemps.
Il y a Ivan Illich qui a parlé de ça sur la modernité. La question, c'est de savoir quelle est la conscience qu'on met derrière ce qui ne sont finalement que des outils. Il ne faut pas être manipulé par ces outils. Les outils doivent être au service des utilisateurs. Et donc, nous, quelle est la conscience qu'on met pour justement faire que la modernité ne soit pas une destruction globale et soit au service de la vie, en fait.
Pour illustrer ce que tu viens de dire, il y a deux auteurs qui l'ont merveilleusement bien dit en une formule toute simple. Rabelais, déjà, qui disait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et Bergson, au XXe siècle, le philosophe français, disait face aux défis technologiques et au poids de la matière et de la technologie dans nos vies, il faudrait à l'humanité pour survivre un supplément d'âme.
Merci pour vous.
Merci, moi je suis obligé de partir, j'ai un train à prendre. Mais vraiment, je vous redis encore une fois combien j'étais merci heureux de voir ensemble avec vous ce documentaire. Merci bien, beaucoup.
Merci, merci Frédéric Lenoir. Merci. Voilà. Il y avait encore.
Oui.
Un deuxième micro, c'est une bonne idée, comme ça. Et j'ai vu qu'il y avait un monsieur en haut, voilà, ouais, qui a déjà la prochaine question.
Alors, d'abord, un énorme merci pour votre œuvre. En tout cas, moi, je l'ai vécu avec beaucoup d'émotion. Je me suis aussi beaucoup retrouvé. J'ai beaucoup de points communs avec vous sur le cheminement. Et notamment aussi, c'est le même documentaire qui a conclu de me convaincre de The Corporation. Et puis après, j'ai aussi cherché beaucoup dans ma vie à comment faire pour améliorer tout ça. Et moi, je me suis engagé dans la lutte politique. Et ces dernières années, je me pose beaucoup de questions parce que vous l'avez aussi posé dans votre documentaire. Est-ce que ça vaut la peine d'essayer de changer le système de l'intérieur ou alors faut-il le construire de l'extérieur ? Alors aujourd'hui, après tout le cheminement que vous avez fait, est-ce que vous arrivez peut-être à me redire comment vous voyez la lutte politique institutionnelle? Est-ce que pour vous c'est un chemin à prendre? Pour moi, il semblerait, enfin, l'expérience que j'en fais est plutôt pas forcément négative, mais a priori j'ai des doutes. Alors comment vous positionnez sur ce sujet-là maintenant avec tout ça?
On a eu les mêmes doutes que toi, hein, je crois.
On les a toujours, hein, je pense.
C'est une vaste question, changer le système de dedans ou de dehors. Je me rappelle, on avait rencontré quelqu'un qui avait beaucoup influencé Marc, quelqu'un qui travaillait à l'ONU, et donc on n'a pas mis dans le film, vous la verrez peut-être dans un prochain bonus, et qui disait « Marc, tu fais un film, c'est super, but you have to go back to work. Retourne bosser dans les entreprises, on a besoin de toi là-bas. » Et Marc, il se disait non, finalement, il a senti que sa place, c'était plutôt à l'extérieur. Mais pour autant, on a besoin de gens qui restent à l'intérieur des entreprises, à l'intérieur des partis politiques. Et donc, moi, la conclusion personnellement à laquelle je suis arrivé, c'est que les deux sont utiles et qu'à la place où on est, l'essentiel, c'est d'être aligné avec sa raison d'être. Si toi, tu as senti que ta raison d'être, c'était là-bas et que tu es bien là-bas, c'est là-bas que tu es utile.
Moi, je pense que, enfin, j'ai lu cette phrase avant qui disait qu'il ne faut pas combattre le système, mais il faut soit construire le nouveau qui va rendre l'ancien obsolète, ou bien il ne faut pas le détruire, mais il faut le démoder. Et en fait, que les gens mettent un peu moins d'énergie dedans, en fait, et commencent à avoir un autre imaginaire. Donc, je pense que ça, c'est la première étape. Après, à l'intérieur, moi, j'ai l'impression aussi que le logiciel, en fait, de la politique aujourd'hui, il rend vraiment, comme je disais tout à l'heure, avec les indicateurs, en fait, qu'on utilise pour la croissance. Il rend la marge de manœuvre vraiment très très faible, donc j'arrive pas bien à savoir la place qu'on peut avoir. Par contre, au niveau local, j'ai rencontré des maires qui ont beaucoup plus d'impact en fait au niveau local que peut-être des députés. Je pense que je crois beaucoup moins au niveau local qu'on peut faire des choses. Donc pour moi, l'implication politique, elle est au niveau du local. Au-dessus, j'ai l'impression, c'est la phrase d'Alain qui dit les gens bien ne font pas de politique, et le risque, c'est de donner le pouvoir à ceux qui le demandent. Il faut surtout pas donner le pouvoir à ceux qui le demandent, puisque les motivations en fait et les qualités qu'il faut pour atteindre le pouvoir, c'est l'inverse de celles qu'il faudrait pour l'exercer proprement. Donc en fait, là on est dans un... C'est pas de bien. Mais là on est dans cette impasse en fait. On est dans cette impasse là, donc je pense que c'est pour ça qu'on s'est dit, on a conclu sur la transformation intérieure aussi, de se dire à chaque fois, on peut avoir les idées les plus généreuses du monde, il y a un moment où justement l'ego, la peur revient sur le tapis et en fait on vient... polluer en gros même ce qu'on entreprend. Donc pour moi, ça va être... Je pense qu'il faut... La transformation personnelle, elle est importante, et en même temps, il y a une urgence de changer les structures, parce qu'aujourd'hui, en fait, si on fait tous de la méditation, c'est bien, mais s'il y a toujours cette maison qui brûle, en fait, ça suffira pas. Donc je pense qu'il y a vraiment des allers-retours entre les deux à faire, et trouver une autre manière de faire de la politique, que ça soit plus convivial, que ça soit plus démocratique. Et je pense que c'est urgent quand même de faire changer les structures, donc il y a vraiment un équilibre à trouver, et je pense que c'est ce que dit Nathanaël, quoi. Faut trouver là où toi, ça te fait pas te faire un cancer de faire de la politique. Si t'es pas bien dans ce que tu fais, tu vas pas pouvoir amener quelque chose de bon.
Donc, mais ceci dit, il faut modérer que, ici en Suisse, il semblerait que vous ayez quand même une vie politique bien plus qualitative que ce qu'on connaît en France.
Et démocratique.
Et démocratique.
C'est vrai.
Et donc, nous, je pense qu'on a beaucoup de leçons, et d'ailleurs, beaucoup de gens observent ce qui se passe chez vous depuis la France, parce qu'on aimerait bien avoir aussi ce fonctionnement beaucoup plus local, avec beaucoup plus de votation. Et voilà, nous, ça nous manque un peu chez nous. C'est vrai que la situation politique en France, est vraiment, on est tombé très très bas. Donc voilà, vous nous inspirez.
Merci.
D'ailleurs, moi, je voudrais savoir sur le revenu de base. J'avais entendu qu'en Suisse, il y avait un vrai débat. Et je pense que c'est une des clés de faire de la politique autrement. C'est si jamais on a un minimum pour vivre, pour justement se réimpliquer dans la vie politique, dans le vrai sens du terme, de recréer du lien, de faire des débats, d'avoir un projet de société, ça peut être aussi une clé pour s'impliquer différemment. Parce que sinon, si on travaille 10 heures par jour, je pense pas qu'on ait en plus le temps de se réimpliquer autre part. Donc je sais pas où ça en est. En Suisse, il y a toujours ce projet-là. Mais ça m'avait l'air d'être au moins une piste à explorer. Ouais.
Alors, juste au niveau du temps, on va prendre encore une ou deux questions, parce que ça fait bien plus de 2 heures que vous êtes assis, on en est conscient. Donc, je vois qu'il y a le micro.
Juste très rapidement pour répondre à sa question. Ensuite, donc, pour avoir une initiative fédérale, il faut 100 000 signatures. Il y a 2 ans, on a obtenu 127 000 pour l'idée des revenus base inconditionnels. En Suisse, on aura l'énorme chance de voter sur ce projet immensément émancipateur en fin 2016, début 2017. On n'a pas encore la date exacte de cette votation, mais le peuple suisse pourra se prononcer sur le revenu de base inconditionnel qui va complètement dans le sens de ce que vous avez montré aujourd'hui. Et je pourrais vous, après, peut-être parler avec vous, puisque je fais partie des membres de cette campagne-là, et puis vous donner des informations plus précises, si vous le désirez, parce qu'effectivement, c'est un beau voyage aussi.
Merci.
Bravo.
Alors, continue.
Est-ce qu'il y a encore une question ? Là-haut, voilà. Oui ?
Ça marche. Bonjour et grand merci. En tant que Brésilienne que je suis, je vous invite à danser. C'est, en reprenant le proverbe africain, sans initier l'enfant, il brûlera le village. Un autre proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Cette idée de nous sommes tous un seul élément, une seule molécule, je pense qu'il faut sortir du carré que nous mettons tous les jours, parce que la pensée est magnifique, le travail est extraordinaire. Et je vais emmener mon enfant, qui c'est son anniversaire demain aussi, le 7 septembre. Donc ça va être son cadeau spécialement chéri, de dire que le bonjour, cette approche que nous devons avoir et que nous oublions tous les jours, doit exister, doit faire partie de nos actions quotidiennes, parce que c'est beau de penser l'art en tant que véhicule de sensibilisation aux droits de l'homme, mais il faut mettre en pratique, même en pratique tout de suite. Là, nous allons faire quelque chose. Donc, nous allons divulguer, nous allons parler, mais certainement, nous allons rencontrer quelques personnes qui vont dévier le regard. Donc, échangeons tout de suite, maintenant, ce regard. C'est aujourd'hui, Audie. Et c'est ça. Donc, merci infiniment pour ce cadeau, pour mon enfant. Un gros bisou à vous aussi pour votre anniversaire.
Merci. Merci beaucoup.
Merci. Alors, je vois qu'il y a là-bas un monsieur. Oui.
Voilà, bonjour. Moi, je suis du sud de la France. Et avec les cigales, je vous invite à chanter. Merci beaucoup aux réalisateurs pour ce magnifique travail. Moi, j'ai envie de dire, vous êtes deux hommes. Et vous avez montré aussi que les valeurs masculines du service, d'être guerrier de la beauté, serviteur de la beauté, serviteur de la vie, eh bien, les valeurs masculines sont aussi belles, hein, elles peuvent être rédimées, et vous l'avez montré, merci. Wow.
Merci. Là, le micro ici à gauche.
Alors, pendant qu'il y a la question qui arrive, moi, j'en profite juste pour dire un petit mot, pour dire que le film est sorti en Suisse, donc, il y a 3 mois de ça, et notamment, on a été soutenu par un cinéma de Genève qui s'appelle le Cinélux, où le film est toujours disponible, ainsi qu'à Lausanne, où il était au cinéma, et où il est toujours. Et là, en Suisse, ça y est, ça commence à décoller, il y a des cinémas qui commencent à vouloir organiser des choses, donc c'est le moment d'en parler à vos collègues. Je vais notamment citer les projections qui auront lieu à Tramelan, à La Chaux-de-Fonds, à Sainte-Croix, à Aubonne, à Châtel-Saint-Denis. Donc si vous connaissez des gens dans ces coins-là, vous pouvez leur passer le message. Et s'ils ne passent pas de près de chez vous, vous pouvez aller voir un cinéma, leur demander de passer le film, contacter votre réseau local. Et il y a toutes les informations sur le site internet pour contacter l'équipe. Il y a un petit formulaire à remplir, organiser une projection. Et nous, on l'organise avec vous, que ce soit dans les cinémas ou à l'extérieur du cinéma à partir de mi-novembre. Voilà. Et donc comme ça, on le fait ensemble. C'est plus sympa.
Alors, tout d'abord, bonjour. En fait, moi, votre film, ça a été mon formatage de cerveau à moi. Et ensuite, après ça, j'ai plus jamais pu voir... Enfin, la société actuelle, en fait, on la voit comme du consumérisme, compte toujours aller de l'avant, etc., développer. Et en fait, les gens, quand on tient des discours un peu plus proches de la nature, etc., on passe souvent pour des utopistes ou d'anciens... enfin, des espèces d'aliénés, en fait. Et j'aimerais savoir si vous avez des conseils, vous, en fait, pour pouvoir plus facilement faire passer le message à quelqu'un sans être pris pour un fou et puis un rêveur, en fait.
C'est pour ça qu'on a fait le film, non ?
Exactement. C'est parce qu'on en avait marre d'être pris pour des fous qu'on a eu envie de faire ce film. Non, je pense que nous, on a beaucoup essuyé les plâtres, on a perdu quelques potes à force de vouloir leur expliquer nos croyances. Mais le fait de ne pas vouloir convaincre, en fait, de sortir de la posture de « je vais te convaincre que toi, ta vie, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens », en fait, et de culpabiliser les gens, en fait, ça ne marchait pas. Et beaucoup de gens, je pense, se sont anesthésiés parce que, en fait, quand on comprend vraiment l'état du monde, en fait, s'il n'y a pas la dimension spirituelle et intérieure, je pense que c'est normal qu'on se ferme, en fait, parce qu'il y a tellement de souffrance, on ne peut pas répondre à toute cette souffrance, à tout le malheur, à la destruction qui est là. Donc les gens, ils se sont fait des carapaces, je pense. Donc c'est plus de dire, moi, j'essaye de vivre de cette manière-là, j'essaie d'être plus cohérent. Et de là, c'est les gens qui sont venus nous poser des questions, en fait. On a essayé de vivre ce qu'on racontait. Et c'est là où ça les touche. Mais c'était plus par l'alimentation, notamment, sans de montrer qu'on pouvait se nourrir autrement, différemment, mais pas en essayant de les convaincre, en les faisant goûter, par exemple, une autre manière de cuisiner, en fait. Voilà. Donc je pense que c'est plus pas de convaincre avec des arguments mentaux, en fait, mais plus par de l'expérience. On combat pas un cynique par une discussion, mais plus par une expérience. Donc tu montres que toi, ton expérience, bah voilà, t'as l'air plus heureux, plus joyeux, et de commencer discrètement. On commence par un petit documentaire ou deux, tu vois, faut pas tout mettre d'un coup. Laisse tomber des ballons dans les couloirs, je sais pas, mais je pense que c'est d'y aller progressivement et c'est vraiment la posture que tu prends pour parler de ça qui fait que soit ils vont pas te parler ou pas. Il y a quelques sujets où je pense que tu mets les gens face à vraiment ce qui se passe, on peut pas forcément être contre, mais la forme a beaucoup d'importance en fait, autant que le message quoi.
Mais bientôt, on sera majoritaire à penser ces choses-là, parce que hier, il y a Mathieu Ricard qui disait que quand il y a 15%, 20% d'une population qui finalement adhère à une pratique, à une croyance, finalement, par effet d'entraînement, on peut aller vers un basculement. Donc en fait, on est peut-être juste dans cette salle un petit peu pionnier, et donc il faut avoir beaucoup de compassion pour les gens qui sont un peu à la traîne, et qui bientôt, ça pensera aussi comme une évidence, et on sera tous à faire les choses différemment, à se relier différemment au monde, et tout ça sera qu'à un lointain souvenir. Voilà.
Surtout pour les blancs, ce qu'il disait hier, qui était très intéressant, c'est qu'il disait qu'il y a 20% de gens qui commencent à faire ce changement-là, il y en a 20% qui disent « moi, j'en ai rien à foutre, les générations futures, qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi, je les connais pas, donc je vais pas les aider. » Et après, il y a 60% de gens qui disent « si les autres le font, je le fais ». Donc en fait, il y a quand même à ce niveau-là, il y a de l'espoir. Et par rapport à ce que disait même Frédéric, je pense que cette schizophrénie, en fait, bientôt, elle va vraiment sauter parce qu'on va réussir à être de plus en plus cohérent. Donc moi, je suis plutôt confiant à ce niveau-là.
Il faut y aller avec beaucoup d'abnégation et beaucoup de joie aussi, parce qu'en fait, c'est assez marrant, quoi. Nous, on voit dans ces réseaux-là où les gens commencent vraiment à éclore un petit peu dans leur façon d'agir et de faire, on se relie entre nous et puis en fait, on s'éclate, quoi. Voilà. Donc c'est ce côté fun. Finalement, s'il y a des copains qui comprennent pas, bah, trouve-en d'autres et puis ils comprendront plus tard, quoi.
C'est ça, ouais. Ça, c'est un vrai conseil.
Voilà, on va prendre une toute dernière question, si on a encore une. Je ne sais pas où vous en êtes là. Alors voilà, ce sera la dernière question.
Alors en fait, ce n'est pas une question. C'est d'abord des remerciements.
Ça marche aussi, on prend.
Merci. Merci infiniment d'aller dans ce sens-là.
Et en fait, je prends la parole parce que avec une amie qui est aussi dans la salle, on a un projet d'émission pour notre chère télévision nationale. Et vous avez pu le voir, avec ce revenu universel, on essaye de prendre de l'avance ici en Suisse. Et avec cette amie, on s'est dit qu'on avait envie qu'on soit plus 20%, mais plus. Et du coup, l'idée, c'est pour rebondir sur ce que vous disiez, de donner des exemples, en fait. De donner des exemples de gens qui ont des projets de vie alternative. Et donc là, je lance un appel. Je pense que si vous êtes ici, c'est que tout ça vous interpelle. Et peut-être que vous êtes déjà dans des projets innovateurs, ou pas forcément innovateurs, ou qui récupèrent des choses qui ont déjà existé. Et avec Sandrine, moi c'est Vania, ça nous intéresse de savoir et peut-être qu'on pourra faire quelque chose ensemble, en espérant que cette émission existe un jour à la télévision pour pousser dans ce sens-là. Merci.
Merci, bravo.
Alors, peut-être que vous avez envie de vous lever, que les gens puissent vous voir, et puis vous êtes à la sortie avec votre ami tout à l'heure, comme ça des gens qui veulent vous rejoindre. Un mot de la fin ?
Un mot de la fin. Ben merci d'être tous là. Nous, ça nous touche. Hein. C'est vraiment une très très belle journée. On est dimanche. On a passé un bon moment avec vous. Voilà. J'espère que vous aussi. C'est passé quelque chose.
Merci à Nathanaël et Marc d'avoir amené autant de belles choses.
On reste un peu par là, s'il y en a qui veulent papoter. Et puis diffusez en Suisse, hein, allez-y. On n'a pas d'attaché de presse, on n'a que vous. Voilà. Il y a un Facebook, il y a le site. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup.
Alors, juste encore un petit mot. Donc, Marc et Nathanaël vont être à l'extérieur, mais j'aimerais vous dire encore une dernière chose qui n'est pas des moindres. Ces trois jours ont été donc sous le thème de la révolution intérieure. Message important de ce changement qui est en train d'avoir lieu, qui, comme son nom le dit, commence par soi-même. Et les rentrées que vous avez payées aujourd'hui, d'ailleurs également pour hier et pour vendredi, vont aller à trois organisations. Il y a l'Association du Livre sur les Quais, qui est une association. Il y a l'Association Karuna de Mathieu Ricard et l'Association Colibri de Pierre Rabhi. Et tous vos places aujourd'hui, Marc et Nathanaël les ont offertes à Colibri et Karuna. On peut les remercier. Merci.
On peut remercier Marc d'avoir organisé.
Et peut-être si vous voulez rester au courant, on a mis quelques feuilles parce qu'on va prendre quelques mailings pour si on fait des newsletters, si on envoie des petits bonus vidéo. Si vous voulez rester en contact, je pense qu'on a mis peut-être 2-3 feuilles sur le stand là-bas pour que vous soyez au courant de voilà, quand est-ce que ça sortira, si on en fait un deuxième, on ne sait pas. Ouais. Donc qu'on reste voilà, en lien. Et que voilà, je pense que c'est important voilà, quand il y a ce type d'événement, que ça, on puisse rester en lien, puisque voilà, cette vision, l'idée c'est que ça grandisse et que ça soit les autres, les marginaux bientôt. Quoi.
Et qu'on devienne une communauté, voilà. Et merci à l'organisateur de la soirée, à la manifestation Vivre sur les quais. Et voilà, c'était vraiment magnifique. Très heureux d'être là. Continuez, changez rien. Changez, mais changez en restant quand même vous-même.